Alors, la vérité est perspective philosophique et théologique. Il me revient à la charge, après l'introduction biblique, de vous entraîner dans une réflexion qui se situe à la croisée entre théologie et philosophie. Et donc, effectivement, dans un premier temps, je veux revenir donc à la définition classique, disons, de la vérité, définition classique que l'on peut tracer de l'Antiquité grecque, hein, en passant par la scolastique, Thomas d'Aquin, jusqu'aux réalistes d'aujourd'hui, qui sont effectivement peut-être plus nombreux dans les sciences de la nature que dans les sciences humaines, mais je pense qu'ils existent quand même aussi, hein, dans les sciences humaines. Et donc, cette définition classique, donc, considère que la vérité est l'adéquation ou la correspondance entre l'intellect et les faits, entre la raison et la réalité. Et cette définition correspond à l'usage courant du terme. Une affirmation est vraie dans le langage courant quand elle exprime les choses telles qu'elles sont, quand elles se conforment au réel. C'est vrai, c'est comme ça. Le concept s'applique d'abord à des énoncés linguistiques ou mentaux, pensés, mais peut aussi désigner la réalité à connaître. Je cherche la vérité. Et la correspondance peut d'ailleurs fonctionner dans les deux sens, donc la parole ou la pensée qui est en accord avec les faits, mais un homme dit vrai ou est vrai, peut-être plutôt dit vrai, quand il tient promesse, quand il conforme ses actes à la parole donnée. Cette définition est classique, mais elle est remise en cause. Et donc, mon exposé tournera pour l'essentiel donc autour de la remise en cause de cette définition classique. Dans une deuxième partie, la revendication de la définition classique que je défendrai. Mais ensuite, alors, faut-il dire un complément apporté, une correction, j'ai préféré parler donc d'approfondissement ou du fait que la définition a besoin d'être affinée dans une perspective biblique. Alors, commençons par les objections. Donc, quelles sont les objections élevées contre la définition classique de la vérité? Alors, première objection, nous ne pouvons comparer que deux discours entre eux. Donc, nous n'avons pas accès directement à la réalité. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de comparer notre connaissance avec une autre connaissance ou de comparer deux discours entre eux. Et si vous voulez donc une formulation célèbre de cette affirmation, donc on peut se référer à Derrida. Il n'y a pas de hors-texte. On ne sort jamais de l'interprétation pour la confronter aux faits. Donc, au commencement est l'herméneutique, dit Derrida, ou encore être, c'est être dans le livre. Oui, je me rends compte que j'ai sauté, donc je suis désolée, c'était bon. Elle va venir plus tard, donc cette objection-là. Donc, ensuite, et j'aurais dû commencer par là. Beaucoup de philosophes disent que le terme vrai ne permet pas de formuler un concept qui aurait une quelconque épaisseur philosophique. Donc certes, nous employons le terme vrai dans le langage courant, mais que ce terme n'a aucun intérêt philosophique. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on en débat depuis des millénaires sur la question, mais en tout cas, c'est une objection qui est élevée contre cette conception. Alors, deuxième objection, donc il n'y a pas la réalité. Donc, il n'y a pas de réalité, en tout cas, il n'y a pas la réalité. Alors, soit parce que la réalité elle-même donc est multiple, soit parce que l'homme n'a pas accès à cette réalité. Et donc, du coup, je ne peux pas parler de la vérité, je ne peux que parler de la vérité pour moi. Donc, soit parce que la réalité elle-même est multiple, soit parce qu'en tant qu'être humain limité, je ne peux pas y accéder, et donc il n'y a que des prises partielles et contradictoires de la réalité. Et vient maintenant donc la troisième objection, qui est en fait une radicalisation donc de l'objection précédente. Et donc je suis désolée, je me suis mélangée là entre la présentation et mon texte. Donc l'affirmation de Derrida et d'autres dans cette perspective que de toute façon tout est interprétation, je ne sors jamais du discours ou de l'écrit, très exactement, donc chez Derrida, donc sur la vérité, je ne peux jamais accéder à la vérité. Une objection, alors là, qui vient de la théologie, on entend assez souvent affirmer en théologie que le concept de la vérité en tant que vérité-correspondance est en fait un concept grec et qui est en contradiction, en tout cas en tension, avec la conception biblique de la vérité, donc la conception d'ailleurs hébraïque, très souvent, donc là on met en avant la langue hébraïque et l'Ancien Testament, qui aurait donc une définition de la vérité beaucoup plus existentialiste, beaucoup plus personnelle, et donc se désintéresserait de la correspondance aux faits. Et un texte qui est souvent cité, donc, c'est le texte de Jean 14, où Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité n'est donc pas, donc, dans cette approche, donc, une correspondance intellectuelle entre parole et fait, mais une personne. Alors, on l'entend assez souvent, peut-être celui qui s'est fait l'avocat le plus, disons, ardu de cette conception était Rudolf Bultmann, donc théologien donc, du Nouveau Testament à l'Université de Marbourg, milieu du XXe siècle, avec donc une très grande influence parce que ses disciples étaient, ils ont occupé pratiquement toutes les chaires de Nouveau Testament dans l'université allemande, donc après-guerre, et donc une très grande influence de cette idée défendue. Alors, je vous avais dit que je tâcherais à revendiquer la définition classique dans un premier temps. Donc, la vérité correspondance se trouve bel et bien dans l'écriture. Et donc je commencerai en fait à répondre aux différentes objections en ordre inverse. Donc, je commencerai par la mise en question théologique, ce qui me semble c'est un service aussi que le théologien peut rendre à un réseau de sciences humaines, donc de justement de mettre en garde contre des affirmations, disons, véhiculées couramment en théologie, mais qui manquent de fondement. Donc, déjà un premier constat, la vérité correspondance se trouve bel et bien dans l'écriture. Et donc, juste, et dans l'Ancien Testament, comme l'argument souvent donc s'appuie surtout sur l'Ancien Testament, donc je voudrais ici, donc je prends juste quelques versets de l'Ancien Testament, donc où, donc là, Joseph, qui parle à ses frères, et qui dit, vous ne sortirez pas d'ici, tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère, donc Benjamin, en mettre ainsi vos paroles à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Donc Joseph veut savoir si les paroles de ses frères correspondent à la vérité, donc s'il y a bien ce petit frère resté chez le père. Ou encore la reine de Saba, qui dit au roi Salomon, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet des paroles, de tes paroles et de ta sagesse. Donc la reine de Saba donc arrive à Jérusalem et vérifie si ce qu'elle a entendu dans son pays correspond bel et bien à la vérité. Ou encore, donc là par rapport à la parole prophétique, le roi donc il dit à Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur, parce que Michée avait commencé par aller dans le sens du roi pour lui annoncer la paix. Et le roi s'était bien rendu compte que ce n'était pas là, en fait, la vérité. Donc, il exige du prophète de dire la vérité. Et donc, la vérité, dans le sens correspondance aux faits. Alors, trois versets, ce n'est pas une preuve complète, mais donc je ne peux pas la faire. Donc maintenant, dans le cadre de l'exposé, je me réfère simplement à Christoph Landmesser, donc qui a fait toute une étude là sur la notion de vérité dans le Nouveau Testament, donc une thèse de doctorat donc publiée donc sur la notion de vérité dans le Nouveau Testament, et ce qu'il dit en fait du Nouveau Testament, donc vaut pour l'ensemble de l'Écriture. Dans tous les écrits néo-testamentaires, l'expression aletheia, qui est le terme grec pour vérité, et ses dérivés s'emploient au moins d'abord aussi et très naturellement pour exprimer la vérité de proposition et d'affirmation, ce qui laisse transparaître l'intuition d'une correspondance, de quelque façon qu'on en précise le sens, entre langage et réalité. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est parce qu'il y a comme un mythe qui circule dans certains cercles théologiques, et un mythe qui tire, disons, sa force essentiellement de deux, on pourrait dire de deux types d'arguments, disons premièrement, donc une conception et disons un usage faussé. Donc des mots, en fait une confusion entre le concept et les mots. Donc là, les théologiens travaillent sur des langues mortes, donc des langues qui ne sont, donc des textes écrits dans des langues qui ne sont pas écrits dans leur langue maternelle. Et donc en grec et hébreu, et on a tendance, quand on travaille sur des textes étrangers, de faire des erreurs qu'on ne ferait jamais si on travaille sur des textes de sa propre langue. Par exemple, une erreur classique et qu'on trouve dans maintes commentaires bibliques, c'est donc de confondre l'origine étymologique et le sens du mot, de considérer que l'étymologie nous dit quelque chose sur le sens du mot. Et donc, pour le terme hébreu, donc emet, assez typiquement, on va dire, c'est un terme donc, qui désigne la racine de la solidité, de la fermeté, et donc la vérité, donc en hébreu, a des connotations différentes de la notion de la vérité en français ou disons dans les langues européennes modernes. Mais il faut distinguer entre étymologie et sens du mot. Le sens du mot se définit par son usage. Et on peut montrer que dans beaucoup de textes de biblique, l'usage donc de emet ou d'aletheia correspond bel et bien aux usages donc du mot aussi en français. Et donc les théologiens en fait ont besoin là de l'apport des linguistes pour se sortir d'une certaine tradition, parce que si j'ai dit il y a deux types d'arguments, donc il y a un premier type d'argument qui vient d'une confusion entre concept et mot, et l'autre argument, à vrai dire, ce n'est pas un argument, c'est la simple répétition. Je pense que vous connaissez ça dans vos disciplines. Donc, on répète une idée tellement souvent qu'on finit par la croire. Ou qu'on pense, même si on ne voit pas pourquoi ça devrait être vrai. Donc on accepte cela. Moi, je l'ai même connu en physique. Quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Donc il y avait un argument, une explication en fait pour les faits sur lesquels j'ai travaillé que je ne comprenais pas. Mais quand vous êtes étudiante qui démarre dans une discipline, vous dites, bon, je ne comprends pas, mais ça doit être vrai parce que c'est dans tous les articles. Et donc je suis allée voir mon directeur de recherche et qui m'a simplement dit, c'est faux, c'est une pseudo-explication. Voilà. Donc faut toujours se méfier de cela, et je crois que cette idée que la notion hébraïque serait différente de la notion grecque de la vérité est un tel mythe qui tire en fait sa force de sa répétition fréquente. Et justement, s'il y a la vérité correspondance dans la Bible, c'est parce que la vérité correspondance est essentielle à la communication. Et donc là, je cite Heinrich von Siebenthal, qui affirme ceci: au centre de la communication linguistique se trouvent des propositions affirmatives dont le rôle absolument essentiel consiste à présenter telle réalité comme un fait, ce qui peut-être n'en est pas un. On peut mentir, mais je veux dire, pour mentir, il faut déjà connaître la norme de la vérité. La relation entre ce que les hommes affirment, énoncent, et l'état des choses, la correspondance donc des propositions aux faits, est au premier plan dans la communication. Ce constat est axiomatique pour la linguistique moderne. Et il me semble que les théologiens, là, ont besoin d'entendre, d'écouter les linguistes, les philosophes peut-être aussi, parce que je vais venir maintenant sur des remises en cause davantage philosophiques de la notion vérité comme correspondance. Et donc, je pense que les philosophes ont aussi besoin de l'entendre. Alors, ayant dit cela, ayant dit que l'écriture donc, contient ou travaille avec la notion de vérité comme correspondance aux faits, bien sûr, cela ne veut pas dire que l'écriture n'a rien à dire de plus sur la notion de vérité. Il y a des affirmations spécifiques sur la vérité dans l'écriture. D'ailleurs, c'est à partir de ces affirmations-là qu'il faut élaborer une théologie de la vérité et non pas l'étymologie des termes hébreux ou grecs. Donc l'insistance, par exemple, est très tôt dans le canon biblique sur le fait que la vérité donc, caractérise Dieu et caractérise Dieu donc, en opposition même à l'être humain. Donc c'est justement la différence entre Dieu et l'homme, que Dieu ne peut pas mentir. Dieu est le Dieu de vérité qui s'oppose aux idoles, que les prophètes et les psaumes donc, traitent de rien de tromperie. Donc, psaume 31, verset 6. Donc ces paroles sont vérité. Et bien sûr, l'affirmation donc, que Jésus donc, dit de lui-même d'être la vérité. Et donc, il faut travailler. Donc là, il y a un enseignement. Et Donald Cobb, tout à l'heure, a essayé donc, de développer certains aspects de cet enseignement. Bien sûr, il y a un enseignement biblique précis, mais c'est un enseignement biblique sur la notion de vérité, comprise d'abord dans un sens courant, comme la correspondance entre fait et paroles, parce que c'est seulement ainsi d'ailleurs que ces affirmations bibliques ou théologiques gagnent en profondeur, gagnent en sens, sinon on ne saurait même pas de quoi la Bible parlerait. Donc, ayant montré que l'écriture utilise elle-même la notion correspondance, il reste quand même donc, cette objection redoutable donc, à la notion de vérité, justement qui consiste en ce constat, pour certains en tout cas, donc qui remet en cause, la remise en cause plutôt, de l'accessibilité épistémique de la réalité. Donc de dire, ok, c'est peut-être important, même essentiel à notre communication, d'utiliser cette notion vérité comme correspondance entre fait et pensée, mais de toute façon, la réalité ne nous est pas accessible. Et donc, il est quand même important de souligner que dans une perspective de création, justement, plusieurs éléments donc de la vision biblique garantissent l'accès à la vérité, au moins l'accès partiel. Alors d'abord, l'homme, en tant qu'image de Dieu, participe de façon dérivée, partielle, mais participe au privilège divin de la connaissance. Et il a donc la responsabilité de nommer les animaux, dans Genèse 2. D'ailleurs, Dieu considère que l'homme est capable de faire le rapprochement entre le commandement qui lui dit de manger de l'arbre de vie et de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu présuppose que l'homme est capable, donc à partir de cette parole reçue, d'identifier correctement ces deux arbres. Donc, ensuite, c'est surtout la création par le logos qui établit la possibilité de faire porter la raison et ainsi les discours sur le monde. Donc, la parole, dès Genèse 1, repris par Jean, dans Jean 1, donc la création se fait par la parole qui est même identifiée au Fils éternel, deuxième personne de la Trinité. Et de cette façon, les faits eux-mêmes sont des pensées de Dieu réalisées et manifestées dans le temps. Et du coup, en fait, toujours dans une perspective de création, il n'y a pas d'opposition, antithèse insurmontable entre la pensée, la raison d'un côté et les faits, la réalité de l'autre. Donc le sensible ne s'oppose pas à l'intelligible, parce que le sensible, donc la réalité elle-même, est intelligible, en fait, est rationnelle par constitution. Si la perspective biblique permet donc ou garantit l'accès au moins partiel donc à la réalité, on peut se poser la question si en dehors de la création cet accès peut être garanti. Et ça me paraît un argument intéressant à développer, de montrer, si on réussit, de montrer que dans les autres conceptions, effectivement, du monde, cet accès à la réalité, donc cette possibilité pour l'homme de connaître la réalité, n'est pas garantie. Alors, je ne peux pas faire une preuve complète, parce que la preuve complète présupposerait de passer en revue toutes les conceptions rivales de la vision biblique. Donc, ça, c'est mission impossible. Ce que je vais faire, je vais vous donner deux témoins qui viennent de contextes assez différents, et ensuite regarder juste quelques conceptions rivales très rapidement pour vous montrer qu'au moins pour celles-ci, et qui sont parmi les plus en vue, donc cet accès n'est pas possible. Premier témoin, Descartes. Descartes, dans son discours de la méthode, fait précéder la connaissance du monde de la preuve de l'existence de Dieu. Donc on ne peut pas connaître le monde sans connaître Dieu. Parce que seule l'existence de Dieu et du Dieu biblique, qui est un Dieu de vérité, me garantit que mes sens ne me trompent pas. Et donc me garantissent la fiabilité de mes sens. Dans la présentation classique de Descartes, on dit que avant la preuve de l'existence de Dieu vient le cogito. Donc il y a quand même, dans le déroulement du discours de la méthode, il y a une vérité qui précède l'existence de Dieu, c'est la connaissance que j'ai de moi-même. Je pense, donc je suis. En fait, quand on regarde de près, et d'ailleurs c'est ce qu'affirme Descartes, c'est ce qu'il veut transmettre, parce qu'il construit tout à partir du cogito. Quand on regarde en détail l'argumentation de Descartes, on se rend compte que Descartes avoue que la règle de raisonnement qu'il utilise pour passer, disons, du cogito à l'existence de Dieu, à l'existence du monde, que la règle de raisonnement présuppose elle-même l'existence de Dieu. Et donc là, donc le passage donc en question, donc du discours de la méthode, si nous ne savions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'un être parfait et infini, pour clair et distinct que fussent nos idées, nous n'aurions aucune raison qui nous assurât qu'elles eussent la perfection d'être vraies. Et donc, je ne vais pas retracer toute l'argumentation de Descartes, mais il est essentiel pour son raisonnement, pour construire sa philosophie à partir du cogito, que les idées claires et distinctes sont vraies. Parce qu'il reconnaît que nous avons plein d'autres idées et qui correspondent à des illusions, donc il faut un critère pour faire le tri. Et cette règle-là dépend de l'existence de Dieu. Donc finalement, Descartes avoue à demi-mot, presque contre son gré, qu'il faut donc postuler l'existence de Dieu pour avoir un raisonnement quelconque. Deuxième témoin, Michael Polanyi. Alors, Michael Polanyi, beaucoup moins connu que Descartes. Michael Polanyi, donc, qui était d'abord chimiste avant donc de prendre une chaire de sciences sociales, mais qui a surtout fait une œuvre d'épistémologue, donc philosophe de la science. Et donc milieu du XXe siècle, donc Polanyi écrit ceci. J'emprunte l'étape où nous reprenons possession de notre pleine capacité intellectuelle au chemin chrétien de la chute et de la rédemption. L'homme pécheur correspond à notre condition mentale historiquement donnée et subjective, dont nous pouvons être sauvés par la grâce de l'Esprit. Le processus de rédemption consiste à nous perdre nous-mêmes dans l'accomplissement d'une obligation que nous acceptons alors même qu'elle semble, si nous y réfléchissons, impossible à accomplir. Donc, Polanyi dit, si on réfléchit simplement aux ressources humaines, effectivement, nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas comment l'homme aurait accès à la réalité. Et donc, il dit ceci, nous entreprenons la tâche d'atteindre l'universel, hein, malgré les limites que nous reconnaissons et qui devraient rendre la tâche désespérée, parce que nous espérons être visités par des puissances que nous ne pouvons pas expliquer dans le cadre de nos capacités explicites. Cet espoir pointe vers Dieu. Alors, deux témoins. On pourrait en prendre d'autres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de penseurs qui sont aussi perspicaces, je trouve, que Descartes et Polanyi sur ce point-là. Et donc, on ne peut pas non plus multiplier à l'infini, hein, le nombre de témoins, disons, en dehors peut-être des penseurs chrétiens tout à fait de notre tradition. Et donc, il est quand même intéressant aussi de réfléchir maintenant de façon plus conceptuelle. Est-ce que les autres explications, hein, de l'accessibilité épistémique du réel tiennent la route? Alors là, je vais passer extrêmement rapidement, je ne vais pas développer les arguments, mais juste pour soit vous rappeler ces arguments, soit pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, pour approfondir ensuite. Donc, première explication rivale, c'est le scientisme ou le naturalisme. Alors attention, le terme naturalisme a des sens assez différents en français. Donc ici, je l'utilise dans un sens donc philosophique qui est surtout influencé, c'est vrai, de la littérature donc anglo-saxonne. Et donc le naturaliste est donc un philosophe ou un penseur qui considère que seul la nature, donc seule en fait la partie de la réalité accessible aux sciences de la nature, n'existe. Et donc le scientiste, donc, c'est donc celui qui considère que les sciences, et d'ailleurs je suis désolée de le dire dans un contexte de sciences humaines, mais en général quand on parle de sciences, on parle de sciences de la nature, donc quand on parle de scientisme, c'est toujours donc, l'idée que c'est les sciences de la nature et en fait surtout la physique, hein, décrit l'ensemble de la réalité. Mais donc de nombreux penseurs là, Descartes, Popper, C.S. Lewis, c'est peut-être la version, disons, la plus complète et la plus lisible. Donc C.S. Lewis dans son livre sur les miracles, si jamais vous ne l'avez pas lu, c'est un classique, disons, qu'il faut lire. Et donc C.S. Lewis donc développe en fait donc au chapitre 3 de ce livre donc un argument qui montre que la raison est d'un autre ordre que la nature, donc est un autre ordre ce qui se laisse décrire par la science. Et donc du coup, pour quelqu'un qui considère que la science décrit l'ensemble de la réalité, en fait il perd d'ailleurs le fondement même de la science, la possibilité même de la science, parce qu'il n'y a plus d'explication pour la fiabilité de la raison humaine. Le panthéisme. Alors, le panthéisme, en fait, vous permet, on pourrait dire, pour qu'il y ait la pensée, donc pour que la pensée ait accès à la réalité, il faut deux éléments. Il faut un certain accord entre la réalité et le sujet connaissant, mais il faut aussi un vis-à-vis. Donc, s'il n'y a pas de vis-à-vis, donc le savoir se brouille, on est dans la simple fusion, confusion. Et justement, dans le panthéisme, vous avez bien la connivence entre raison et réalité, parce que vous êtes dans une conception du monde qui est unifiée, unitaire, mais vous n'avez plus de vis-à-vis. Donc, la raison ne se distingue plus du monde et du coup, ne peut plus, en fait, le comprendre. Alors, le kantisme et ses dérivés, donc le kantisme lui-même ne prétend pas vous fournir un accès à la vérité. Donc, Kant considère que, justement, nous ne pouvons pas connaître la vérité, nous ne pouvons pas connaître la chose en soi, Ding an sich, mais seulement les phénomènes. Alors, il prétend que sa vérité phénoménale suffit à accomplir toutes les fonctions que normalement la vérité métaphysique accomplit. Je considère que c'est faux, mais de toute façon, on peut noter que Kant et le kantisme et les néo-kantismes donc ne prétendent pas, en fait, de nous permettre l'accès à la réalité. De mon point de vue, il y a une explication rivale donc à la conception biblique qui tient la route, donc c'est le platonisme, mais qui a quand même un prix métaphysique assez élevé. Donc c'est une explication qui, pour le moins, paraît très contre-intuitif pour nous, parce que le platonisme donc double notre monde visible, donc d'un monde des idées, et donc nous connaissons en fait notre monde parce que avant notre naissance, nous avons contemplé les universels correspondants dans le monde des idées. Alors, je simplifie terriblement, mais juste pour vous donner donc une idée. Et je pense que logiquement, c'est cohérent, mais donc c'est quand même, disons, le prix métaphysique est très élevé. Donc, vous avez compris que, un, je considère que l'écriture utilise la notion de la vérité comme correspondance, que, deux, la vision biblique du monde, et en particulier la création, nous permet de fonder l'accès de la raison à la réalité, et trois, que toutes les autres conceptions donc, ne permettent pas cet accès épistémique du réel. On pourrait dire qu'on aurait là une formidable preuve de l'existence de Dieu, ou même plus précisément, pas seulement de l'existence de Dieu, mais de la vision biblique du monde. Parce que seule conception qui permet la connaissance. Alors, la preuve n'est pas complète, etc., mais je veux dire au moins le schéma. Bon, oui, non. Je pense que c'est significatif, c'est pourquoi je vous le raconte, mais je ne considère quand même pas que cela revient à une preuve complète de la conception biblique du monde, parce que vous avez des conceptions qui justement essayent de se passer de la vérité correspondance aux faits et qui essayent d'offrir des substituts de la vérité métaphysique, et qui considère qu'on peut tout faire avec ces substituts et que ça suffit. Donc on n'a peut-être pas le café, mais on a du Nescafé et ça suffit. Donc on n'a peut-être pas le vrai, mais le substitut qu'on a est suffisamment bon pour faire tout ce qu'on veut faire avec la vérité. Alors là aussi, juste quelques éléments très très rapide, donc des définitions rivales de la vérité, mais je pense à vrai dire que le nerf de la guerre aujourd'hui se situe surtout là, dans ces définitions rivales de la vérité, où on offre des substituts, donc des redéfinitions, des nouvelles définitions de la vérité. Par exemple, la conception pragmatiste est vrai ce qui marche. Alors j'ai pris des slogans pour qu'on retienne mieux, bien sûr, c'est plus subtil à chaque fois quand un penseur le développe. Donc la conception cohérentiste est vrai ce qui est cohérent. La conception vérificationniste est vrai ce qui se laisse vérifier. Et encore la version relativiste est vrai. Donc là, c'est la définition, donc j'ai repris ça à Richard Rorty. Alors, si on voulait le traduire en français, on pourrait dire « est vrai ce que vos collègues vous laissent affirmer ». Donc, certains d'ailleurs ont fait remarquer à Rorty que ses collègues philosophes, justement, ne lui laissaient pas affirmer cette définition de la vérité et que donc sa définition était contradictoire. Que faire de ces conceptions, de ces définitions ? Il me semble qu'à chaque fois, en tout cas pour les trois premières, elles captent un critère ou une caractéristique de la vérité, mais il se trompe en remplaçant ce critère à la définition. En tout cas, si on raisonne hein, dans une perspective biblique, je pense qu'il est juste de dire, par exemple, que la vérité marche, entre guillemets, que c'est utile de se conformer à la vérité. Parce que nous vivons dans un monde issu de l'acte créateur de Dieu, doté de structures stables. Il est donc payant de conformer ses paroles et ses actes à cette structure. Il est utile de suivre la vérité. Pourtant, je pense qu'il n'est pas juste de renverser, hein, comme fait la conception pragmatiste, et donc d'utiliser cela comme une définition de la vérité, et donc de dire que tout ce qui est utile est vrai. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont utiles, au moins à court terme, et qui ne sont pas vraies. Et là, c'est parce que fondamentalement, hein, nous vivons dans un monde de pécheurs, dans un monde corrompu, où, par moment, le menteur réussit pour un temps. Et ce n'est qu'au jugement dernier que la vérité révélera toute son utilité. C'est vrai qu'au final, seule la vérité gagnera. Mais il faudra attendre un peu. La conception cohérentiste de la vérité, là aussi, la vérité est cohérente, parce que nous vivons dans un monde créé par Dieu, et Dieu est cohérent. Alors, les théologiens en disent plutôt simple. Hein, donc, il n'y a pas de contradiction en Dieu. Et le monde, en tant que création de Dieu, porte sa marque. Hein, donc, la réalité est cohérente et permet un discours cohérent. Mais là aussi, le mensonge, au moins pour un temps, peut imiter la vérité et peut feindre une cohérence interne. Certes limitée, qui au bout du compte va se heurter contre une contradiction, mais là aussi, par moments, il faut attendre assez longtemps pour s'en rendre compte. Il y a des mensonges hein, qui perdurent. La conception vérificationniste hein, est vrai ce qui se laisse vérifier, donc on pourrait dire c'est vrai pour un être omniscient. Un être omniscient peut effectivement vérifier tout ce qui est vrai. Mais l'homme ne l'est pas, même la communauté humaine ne l'est pas, et donc il serait donc erroné aussi de considérer que est vrai seulement ce qui se laisse vérifier. Et bon, pour la conception relativiste, j'ai déjà fait un commentaire, c'est vrai quand on se place dans une perspective eschatologique, on pourrait dire hein, que c'est juste ce qu'affirme Rorty, parce qu'au dernier jour, en tout cas dans la communauté des rachetés, seule la vérité hein, sera acceptée. Mais de nos jours, il y a aussi des mensonges qui circulent et qui peuvent être acceptés dans telle ou telle communauté. Il y a une version encore plus radicale hein, de se débarrasser de la vérité, et c'est ce qu'on appelle donc le refus déflationniste ou la conception déflationniste de la vérité. Oui, donc le refus, je mets déjà une certaine connotation. En fait, la théorie déflationniste n'avance pas une nouvelle définition de la vérité, mais elle nie la pertinence de tous les débats. En fait, pour elle, hein, affirmer que P est vrai revient à affirmer P. Quand je dis il est vrai que la neige est blanche, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'affirme que la neige est blanche. À quoi donc bon de continuer à s'interroger sur la vérité ? Donc la vérité ne peut pas servir de norme à la pensée, elle n'est qu'une déclaration d'assertion. Donc si j'orne hein, donc une phrase de l'attribut vrai, en fait, ce n'est pas à cause de l'état du monde, hein, mais c'est à cause de mon attitude envers cette proposition. Quand j'ai dit que P est vrai, j'exprime ma disposition à affirmer P. Donc l'attribut vrai donc, est un titre honorifique hein, que je donne aux propositions que je suis prête à affirmer. Alors là aussi, hein, donc je vais dire bon, trois phrases, je vais répondre, c'est assez horrible, mais bon, c'est peut-être aussi l'avantage des journées, interdisciplinaires, hein, où justement on ne va pas se limiter à un point précis du débat enfermé dans une discipline, mais essayer juste de donner quelques pistes, hein, ouvrir des pistes de réflexion. Il me semble que le refus déflationniste de la vérité est un remède dicté par le désespoir. Donc la correspondance entre pensée et discours, d'un côté, réalité de l'autre, est difficile, d'ailleurs voire impossible à établir en dehors de la doctrine de la création. On constate que les autres définitions donc, sont insatisfaisantes, alors abandonnons la notion, ou disons qu'elle n'a pas d'intérêt. Mais peut-on se débarrasser de la vérité si facilement ? L'être humain, en tant qu'être de communication, porte le plus grand intérêt à la vérité, aux faussetés des affirmations qu'il profère ou qu'il entend. Et il me semble que c'est le cas même des philosophes déflationnistes eux-mêmes, sauf quand ils sont en train de débattre la notion de vérité, et encore, parce qu'en général, disons, la plupart veulent quand même nous faire croire que c'est la bonne, la vraie représentation de la vérité. Donc, je considère donc qu'il faut résister à ces remises en cause et qu'il faut réaffirmer, revendiquer la définition classique de la vérité. Mais, ayant dit cela, on peut là aussi quand même signaler que certains auteurs voient bien un rapport entre le refus de la vérité et le refus de la foi en Dieu. Et donc là, Richard Rorty, donc c'est une reprise de sa pensée, donc le terme qui désigne la réalité telle qu'était en elle-même, distincte des besoins et des intérêts humains, n'est rien d'autre qu'un de ces noms obséquieux donnés à Dieu. C'est la version moderne, éclairée, du besoin religieux de s'incliner devant un pouvoir non humain. C'est intéressant qu'un penseur qui a certainement aucune inclination, donc justement à la foi chrétienne, voit bien ce rapport. Donc, il faut, de mon point de vue, revendiquer la notion classique, mais il faut aussi l'affirmer, parce que si nous affirmons en fait la vérité comme correspondance entre pensée et réalité, entre parole et fait, les faits ne sont pas les mêmes pour le croyant et le non-croyant. Ou plus exactement, le non-croyant ne reconnaît pas les mêmes faits que le croyant. Et donc je cite ici Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand, connu surtout pour sa résistance au régime nazi, qui dans un texte « Que signifie dire la vérité ?» c'est en annexe à son éthique, écrit ceci « Pour pouvoir exprimer une réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire pour parler avec véracité, il faut conformer nos regards et nos pensées à ce qu'est la réalité en Dieu, par Dieu et pour Dieu. » Car le monde et chaque fait à l'intérieur de notre monde reçoit son être de l'acte créateur. Et donc, en dernier ressort, un fait ne se comprend que par sa relation à Dieu. Et donc, la conception de la vérité, donc, que nous sommes amenés à défendre sur la base biblique, donc, est nécessairement un approfondissement de la perspective traditionnelle. D'ailleurs, Bonhoeffer, dans son texte, tire la conclusion de cette affirmation, donc que la vérité est, dans la perspective biblique, une vérité relationnelle, toujours en relation à Dieu, aux autres. Et donc, parce que la question c'est qu'est-ce que dire la vérité, et que donc le devoir de vérité dépend de la relation qui me lie à l'autre. Et que je ne suis donc pas, qu'il n'y a donc pas d'obligation à dire la vérité, ou à dire la même vérité, en tout cas à tous. Donc l'ennemi, par exemple, donc, n'a pas, je dirais, le même droit, disons, à la vérité, et surtout pas à toute la vérité, que mon ami ou que j'ai pas le parent par rapport à un enfant. Donc c'est assez intéressant, donc une certaine contextualisation de l'exigence de dire la vérité. Donc, ayant dit cela, hein, que les faits prennent une autre vision, une autre perspective, hein, dans la perspective biblique, justement, quelles sont les conséquences, hein, pour donc notre conception de la vérité. Alors, je pourrais reprendre plusieurs des éléments, hein, de ce que Donald Cobb a dit, par exemple sur l'importance de pratiquer la vérité. Donc, effectivement, dans la conception biblique, il n'y a pas d'opposition entre la vérité intellectuelle, hein, et la vérité pratique. Parce que justement, il y a un lien, hein, entre, disons, l'être, hein, et le bien. Hein, parce que Dieu, il est le créateur, à l'origine de tout être, mais il est en même temps la bonté, hein, donc la norme du bien. Et donc le bien et le vrai vont ensemble, hein, dans la perspective. Du coup, effectivement, la vérité se pratique, mais la pratique vit aussi de la réflexion. Donc, à la fois, on ne réduit pas la vérité à la réflexion ou à l'affirmation intellectuelle vraie, et en même temps, la pratique ne peut jamais se passer de l'affirmation vraie. Hein, c'est bien la vérité qui vous rendra libre. Donc, je n'avais pas prévu, en fait, de développer ce point, et ça tombe très bien ce que Donald donc l'a fait. Je vais développer plutôt un autre point, c'est l'accent personnel de la vérité dans une conception biblique. Et donc je prends un peu de recul pour le faire, en parlant d'abord, hein, donc d'une conception. Alors je dirais, c'est même pas la définition classique de la vérité, mais c'est un durcissement, hein, de la définition classique. Donc dans la tradition des Lumières, on pourrait commencer par Kant, mais bon, là, je commence plutôt... Disons, on pourrait commencer avec Kant, hein, donc qui veut engager toute discipline qui mérite le titre science, hein, et pour lui, donc, ça va jusqu'à la philosophie, donc, et la métaphysique. Donc, il veut, justement, toute discipline donc, engager sur la voie sûre de la science, donc sur le modèle, en fait, de la physique newtonienne, très exactement. Et donc, c'est un idéal de connaissance. Alors, c'est un peu provocateur de dire, mais c'est un peu un idéal de connaissance sans sujet qui connaît. Et alors, dans la forme la plus pure, je pense qu'on le trouve à la fin du 19e et début 20e, donc lié à des avancées en logique formelle à la fin du 19e siècle. Et donc des travaux de Bertrand Russell sur les fondements des mathématiques et donc ensuite l'empirisme logique, hein, du cercle de Vienne dans les années 1920-1930, avec comme héritier aujourd'hui la philosophie analytique, même si la philosophie analytique a changé pas mal, disons de forme, hein, depuis ses temps fondateurs. Mais alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Alors, je vais simplement donner une citation du manifeste du cercle de Vienne qui montre, je crois, très bien ce que c'est l'illusion de la vérité sans sujet connaissant. En fait, ce que les auteurs, donc, ils sont, donc, c'est un texte donc, offert, hein, aux, disons, à Schlick, donc aux penseurs phares du cercle de Vienne, donc par d'autres membres de ce cercle. Et donc, ils écrivent ceci. Hein, ce qui relie les hommes dans le langage, ce sont les formules structurelles. Elles représentent le contenu de la connaissance commune aux hommes. Les qualités vécues subjectivement, le rouge ou le plaisir, sont en tant que telles seulement des expériences vécues, non des connaissances. Dans l'optique physique, entre seulement ce que même un aveugle peut en principe comprendre. Et donc, pour eux, hein, donc la science est en fait toute connaissance. Hein, parce qu'en dehors de la science, il n'y a pas de connaissance. Il y a des expressions d'appréciation, d'attitude envers la vie, hein, mais il n'y a pas de connaissance. Donc, dans la science, entre seulement deux éléments, hein, des structures formelles, logiques, abstraite et des données empiriques immédiates. Et donc, exigence effectivement de l'objectivité, mais objectivité comprise dans le sens qu'on peut même faire abstraction du vécu de l'individu, du chercheur. Et donc cette exigence, alors par rapport à la physique donc des couleurs, est donc une exigence pour l'ensemble des domaines de la connaissance. Alors, face à cet idéal, il y a eu une réaction. Alors, et pas spécialement d'ailleurs une réaction chrétienne, mais aussi une réaction chrétienne, mais il y a en épistémologie donc une réaction, donc, où on peut parler du retour du sujet connaissant, juste quelques noms sans les approfondir. Donc Thomas Kuhn, avec son livre révolutionnaire, La structure des révolutions scientifiques, où il montre justement que même en science, même en physique, donc des éléments alors personnels, on pourrait dire communautaires, jouent un rôle, que même en science dure, donc le savoir n'est pas un savoir abstrait qui s'élabore par déduction logique à partir de données empiriques neutres, mais qu'il y a des présupposés qui interviennent dans l'élaboration des théories scientifiques, et donc les théories scientifiques donc sont elles-mêmes situées dans l'histoire. Alors, on pourrait citer d'autres noms, donc si on veut des représentants extrêmes, mais on pourrait même dire extrémistes, on pourrait dire Paul Feyerabend ou Michel Foucault. Je vais vous parler d'un autre penseur que j'ai déjà mentionné, donc Michael Polanyi, qui est un précurseur en fait de cette révolution en épistémologie, donc qui a écrit avant les autres, qui est resté marginal, mais que je trouve très intéressante. Et en plus, j'ai eu le mandat par le comité de parler un peu de Polanyi aussi dans mon exposé. Donc voilà, donc je m'acquitte de mon devoir. Donc, quelques éléments sur la pensée de Polanyi. Non, qu'est-ce que j'ai dit là? Je suis allée trop loin. Bon, je pense que c'est quand même l'ancienne version que vous avez et que voilà, qu'il y a des diapos qui ne s'affichent pas. Bon, on va voir. Parce que là, il y a des diapos qui ne s'affichent pas, sauf s'il y a des... Non, je crois, oui. Voilà, bon. Ça, c'est... j'ai transmis hier soir trop tard, donc mon... voilà, bon, on fera la fin, donc sans la présentation. Voilà. Donc Michael Polanyi, donc, dit qu'en fait, seule une personne peut connaître la vérité. Et en fait, il donne plusieurs exemples pour cette connaissance personnelle, où en fait, il dit, prenons par exemple un visage. Donc, on ne peut pas dire que la reconnaissance d'un visage est la simple construction de données empiriques immédiates. Donc j'ai des perceptions qui arrivent sur mon œil, les différents éléments du visage, et ensuite je constitue le visage, et donc je reconnais le visage. Non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a... Il y a comme un saut dans la reconnaissance du visage, où même quand tous les éléments ont changé, je reconnais encore le même visage. Quelqu'un qui est vieilli, vous prenez la lecture sur le papier, il en découvre plutôt le sens. Et d'ailleurs, assez souvent, tout en étant inconscient, alors des lettres certainement, et parfois même des mots. Alors là, l'expérience Polanyi, donc, qui était trilingue, en parle, et bon, je peux vérifier d'une certaine mesure, c'est l'expérience, je pense, de tous ceux qui sont à l'aise en deux langues. Assez souvent, il arrive que nous lisons un texte sans même nous rendre compte dans quelle langue le texte est écrit. Ou parfois même, il m'est arrivé de parler, sans me rendre compte dans quelle langue je parlais, et c'est le visage interrogateur donc, de la personne en face qui me disait que je m'étais trompée de langue, dans des contextes où je me retrouve donc, à parler, disons, les deux ou trois langues de façon, disons, proche, dans des contextes de congrès, par exemple. Et ce qui montre, en fait, que l'intention ne porte pas sur les mots, mais porte sur leur sens. Et donc, il y a une intégration qui n'est pas simplement de l'ordre de donc de la construction logique formelle. Et donc il y a quelque chose dans la connaissance qui est personnel et qui est donc qui est personnel et qui se laisse justement pas capter par un ordinateur ou par donc par un ordinateur ou par donc une machine et qui se laisse même pas écrire sur un bout de papier. C'est pourquoi la rencontre avec des chercheurs en direct ne peut pas être remplacée par la lecture de livres. Et Polanyi, donc, en tire la conclusion que donc, cet élément personnel donc, est essentiel à la connaissance et implique en particulier ce qu'il appelle la hiérarchie de la connaissance. Et ce qu'il veut dire avec cela, que les faits relatifs donc, aux êtres vivants, là je cite Polanyi, sont beaucoup plus personnels que ceux qui touchent au monde inanimé. Donc il y a une dimension personnelle dans tout savoir, d'après Polanyi, même en mathématiques, mais cette dimension personnelle devient de plus en plus importante, plus je m'approche en fait du réel. Et donc, donc, du coup, quand je m'élève donc sur l'échelle des êtres, cette dimension personnelle devient de plus en plus importante. Et du coup, d'ailleurs, les différentes sciences ont leur méthodologie propre. Et je ne peux pas réduire la biologie à la physique, et je ne peux pas réduire la psychologie à la biologie. Donc on aboutit donc à une conception en opposition justement à la conception du cercle de Vienne, à donc la conception en fait des sciences, non pas de la science, mais des sciences avec chacune leur méthodologie propre et donc une place propre, pleine et entière accordée aux sciences humaines. Il me semble que je peux m'arrêter là. Donc, il y aura d'autres conséquences à tirer, mais pour un réseau d'évangéliques et sciences humaines, il est peut-être réconfortant d'entendre que dans la perspective biblique, il y a une place à part pour les sciences humaines et qui, justement, ne se laisse pas réduire simplement à la conception, donc à la méthodologie des sciences de la nature, à cause de la part accrue de l'élément personnel.
Étudiant en théologie, qu'est-ce que vous répondriez à Derrida sur son objection? Enfin, est-ce que vous, à Derrida, à son objection, à cette... En fait, comme vous n'avez pas explicitement répondu à Derrida, je voulais savoir, est-ce que vous prendriez le parti de lui dire oui, au commencement est l'herméneutique, et alors cela n'empêche pas la vérité, ou alors est-ce que vous lui diriez tout n'est pas qu'herméneutique?
Alors, je pense Derrida est intéressant parce que je considère qu'il est beaucoup plus perspicace que d'autres penseurs qui pensent assez souvent qu'il est possible d'affirmer la vérité, d'avoir accès à la réalité sans se référer à Dieu. Et donc, peut-être je commencerai, si j'avais l'occasion de parler à Derrida ou à quelqu'un qui est inspiré de Derrida, pour le féliciter, pour dire oui, voilà, tu as raison. Tu as raison de dire que qu'il n'y a pas accès à la réalité, qu'il y a, chez Derrida en plus, il n'y a même pas une vérité, parce que ce que je peux savoir de la réalité, c'est qu'elle est multiple, qu'elle est incohérente, qu'elle n'est pas simple. Et donc, je dis, mais c'est bien de se rendre compte de cela. Voilà. Et ensuite, j'essaierai de pousser Derrida davantage, disons, sur le plan pratique, de dire, tu as raison sur le plan théorique. Si tu refuses Dieu, tu ne peux qu'aboutir à cela. Mais tu ne peux pas vivre comme cela. Et donc, soit tu te laisses mourir, soit tu crois en Dieu. Donc, ma réponse serait plutôt, plutôt pratique ou pragmatique, parce que je pense qu'il a raison sur le plan conceptuel, mais de lui dire, mais au fond, tu ne peux pas vivre avec cela, et tu ne peux même pas faire de la philosophie. Donc, je pense que quand Derrida écrit, par exemple, il veut quand même qu'on le comprenne dans un sens. Hein, même s'il prêche donc l'ouverture de l'interprétation, qu'on ne sort jamais de l'interprétation, etc., ces textes, disons, il les écrit quand même dans l'optique d'être compris dans ce sens-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne devrait même pas faire. Il devrait laisser en suspens, disons, dans un flou artistique, hein, même la réception de ses propres écrits. Et pas seulement de ses écrits philosophiques, mais même quand il envoie un petit mot, je sais pas, pour dire on se donne rendez-vous demain matin. Donc si tout n'est qu'interprétation, ben, moi je vais en comprendre que demain matin, je dois faire mon jogging plutôt que d'aller le rencontrer. Non, bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, il me semble de montrer l'impossibilité pratique, hein, de cette conception. Ça serait ma réponse.